sur la vie après la mort. Le conte numéro 20, suicide d'un adolescent, sur le sort des suicidés. Donc comme préalable à ce conte, pour dire qu'il n'est certainement pas fait pour les enfants, celui-là. En Matthieu 7, il est écrit « Ne jugez pas afin de n'être pas jugé, car du jugement dont vous jugez, on vous jugera, et de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous. » Le miroir. Il s'agit de Théophile Ducharme, né à Rennes en 1988, bon élève de terminale, intelligent. Théophile a l'esprit ensorcelé par Marguerite, rencontrée un an auparavant au lycée, à l'âge de 16 ans. Celle-ci est fille d'un avocat, elle est belle, elle sort des bras de Philippe, un condisciple de classe de première, pour se jeter dans ceux de ce Théophile couvert de petites copines et dont ses camarades disent qu'il est bronzé, qu'il a les yeux verts, les cheveux châtains, courts et enduits de gel, une forte stature et déjà une mâchoire d'homme. Il s'adore. On connaît la suite, Théophile et Marguerite sortent ensemble à partir du 1er avril 2004. Théophile craint de perdre Marguerite et se montre avec elle d'une prévenance émouvante. Puis le couple se montre en ville, fréquente des soirées. Ils partent en vacances une semaine pendant la période qui suit les épreuves du bac et reviennent à Rennes. Marguerite ne se sent plus bien avec Théophile. Elle le trouve trop gentil, trop à son service. Extérieurement, elle semble plus distante, puis, brutalement, le 6 juillet, elle lui signifie sa rupture. On la voit quelques jours plus tard au bras d'un autre garçon. Une semaine après la rupture, Théophile dit à un de ses camarades « J'ai cette fille dans la peau » et il ajoute « J'irai jusqu'au bout de mes forces après, si je pars, personne n'aura rien à se reprocher. » « Je ne lui en veux pas, elle est partie. Cette fille qui m'a donné la seule année que j'ai connue de bonne dans ma vie. Elle est partie, me laissant seule, tout seule. » 30 septembre, il se suicide pour ne pas survivre à son grand amour. Jacques, son frère, qui l'avait accompagné en vacances, est témoin des dernières semaines. Il raconte les circonstances exactes de ce suicide d'amour. « Je savais, disait Jacques, Théophile miné à en finir, mais non pas dans ces conditions. Il disait « Je suis comme une horloge qui a perdu son ressort et rien ne pourra me remonter. » Mais vraiment, je ne pouvais supposer qu'il se tue dans le hall de l'immeuble de Marguerite. J'étais convaincu qu'il courait un danger dans sa chambre et j'avais peur de le retrouver pendu devant le portrait de celle qu'il regrettait. Aussi, lorsqu'on me prévint qu'il était, contre son habitude, sorti ce soir-là pour aller en ville, je ne fus pas très inquiet. Néanmoins, je m'y rendis, et en passant rue Cambronne, j'ai trouvé la police et des voitures de pompiers. Puis un vague pressentiment m'a assailli. Je suis revenu sur mes pas, et lorsque je vis un brancard, je me suis précipité et j'ai demandé « Qui est-ce ? Que s'est-il passé ?» Théophile était sur le brancard, la tête bandée. Deux filets de sang lui coulaient de chaque côté du crâne. Il a eu quelques légers spasmes. Il est mort 2 heures plus tard à l'hôpital. Le projet de Théophile était visiblement arrêté depuis quelque temps. C'était devenu chez lui une idée fixe, en finir avec la vie et ne pas survivre à son malheur. Il était en quelque sorte gardé à vue par ses amis. On ne sait comment il s'était procuré l'arme avec laquelle il s'est tué. Il avait laissé 2 lettres, l'une à ses parents, l'autre à ses amis, déposées dans un tiroir de son bureau. Il disait à sa mère « Pardon, je t'aime, ne te fais aucun reproche, ni à toi ni à personne, je suis seul et décidé face à mon choix. » Dans une longue lettre, il précisait sa dernière volonté, être enterré avec une photo de Marguerite. Quand on le déshabilla, on trouva effectivement sous sa chemise, contre sa peau, une photographie représentant Marguerite souriante. Au dos étaient écrits ces mots « Je t'adore, ta Marguerite ». On ne vit pas Marguerite à l'enterrement et on l'a compris. Tout cela était trop lourd à porter pour une jeune fille de 17 ans. de l'autre côté du miroir. Théophile fut propulsé hors de son corps par le projectile. Il se retrouva par terre, étalé de tout son long. Il pensa « Je me suis raté ». Il voulut ramasser son pistolet tombé au sol et resta pétrifié. Une main crispée le tenait déjà, sa main. Il mit un temps à réaliser, tandis que les portes des appartements s'ouvraient avec des cris d'effroi qui jaillissaient de toutes parts. Il s'attendait au doux sommeil du néant et il se retrouvait complètement vivant. Il voulut parler aux gens, mais personne ne le voyait. C'est alors que sa Marguerite arriva. Elle vit son corps et elle comprit. Or, Théophile voyait non seulement son visage, sa main crispée devant sa bouche, mais avec une acuité étonnante, il voyait ses pensées. Plus encore, il pensait ses pensées, comme s'il était elle, de l'intérieur. Il la vit entrer précipitamment dans l'appartement de ses parents et s'y cacher. Et il la suivit sans problème, passant à travers la porte. Déjà, il voulait crier qu'il s'excusait, mais aucun son ne sortait. Et il assista à toute sa détresse intérieure. Il ne vit qu'une petite fille aux abois, incapable de réaliser d'abord, puis de porter l'énorme poids qui tombait sur ses épaules. Il la vit tour à tour penser au suicide, puis se dire qu'elle ne pourrait jamais retourner au lycée. Tout se bousculait en elle, pas par amour pour lui, mais dans l'unique idée de cette responsabilité qu'elle était incapable de porter. Elle téléphona à une amie qui ne savait pas, sous le coup de la nouvelle, quoi lui dire. Puis ses parents arrivèrent en catastrophe. C'est son ancien petit copain, il s'est tué sur le palier. Confronté à une telle détresse, vivant de l'intérieur ces événements, Théophile prit brutalement conscience de la folie de son geste. N'en supportant pas plus, il se sauva. Il s'enfuit et pensa à sa mère pour se retrouver aussitôt auprès d'elle. Et il la vit, petite chose blottie dans la salle d'attente du funérarium, écrasée de détresse. Il lut ses pensées et vit défiler dans sa tête tout le passé, tout l'amour donné pendant 17 ans, de soins et de quotidien, la grossesse tant attendue, le bébé le plus beau du monde, le petit garçon costaud, toute sa fierté devant le jeune homme sorti de ses efforts, et enfin tout l'anéantissement. Et dans une foudroyante prise de conscience, il comprit qu'il n'avait absolument pas pensé à sa mère. Il comprit qu'elle était morte, aussi, et pour toujours, sans doute. Il sortit dans la rue. Mais quel con, quel con! Et il frappait les murs qui n'offraient aucune résistance. Partout où il allait, il emmenait avec lui la vision de la catastrophe. Alors il alla se cacher tel un renard poursuivi par la meute dans une gare désaffectée, un ancien lieu des jeux de son enfance. Il y resta seul 3 jours et le cauchemar avec lui. Puis il se sentit appelé. Il suivit l'appel et se retrouva dans l'église où il assista à son enterrement. Il y vit tous ces gens atterrés. Il vit une sorte d'unanimité dans la tristesse car nul ne se réjouit de la mort d'un jeune. Globalement, les pensées étaient de l'amitié sincère. Quelques notes dissonantes cependant. Les amis de Marguerite étaient là, compatissants certes mais fermés. L'un d'eux s'adressait à lui comme s'il avait été dans son cercueil. « T'es vraiment nul. Il est beau ton geste grandiloquent. Et c'est comme ça que tu l'aimes, toi, Marguerite. Tu lui laisses le paquet et débrouille-toi. Vis ta vie maintenant. » Il était confus. Il était maintenant parfaitement conscient de sa lâcheté. Il alla voir son frère qui se tenait droit, présent, simplement la liturgie comme on honore un ami. Ce frère ne s'adressait pas à lui, n'ayant jamais espéré aucune survie après la mort. Il aurait voulu lui dire « Eh bien, tu te trompes, c'est un fait, tes théories physiques sont insuffisantes. » Il s'assit au fond de l'église auprès d'une dame âgée et en chapeau. Il ne la connaissait pas, elle priait. « Sainte Vierge, Souvenez-vous qu'on n'a jamais entendu dire que celui qui a eu recours à vous ait été abandonné de vous. Je vous en prie, occupez-vous de ce jeune, venez le chercher. » Il en fut très touché. Il ne croyait pas du tout à cela, mais il vit qu'elle était sincère. Écrasé par la tristesse, il ne voulut pas en supporter davantage et il sortit. Après l'enterrement, il erra un peu dans la ville. Il glissait comme une ombre, parfaitement seul et sans repos. S'il avait connu un peu de théologie, il aurait su qu'il était dans le passage des ombres de la mort. Il retourna dans sa gare, incapable de sortir et d'aller dans les appartements de ses amis. 3 jours plus tard, il avait tout retourné dans sa tête. Cette incroyable et impossible survie, ses dégâts laissés derrière lui, cette solitude. Alors il pleura amèrement. Il répétait « Qu'est-ce que j'ai fait? Si j'avais su, comment réparer ?» L'ange. Et puis, il y eut soudain du nouveau, une voix parla. « Tu t'es suicidé par amour, n'est-ce pas ?» Théophile sursauta. Une voix s'était adressée à lui. Il se retourna, il ne vit personne. « Qui me parle ?»« C'est par amour que tu t'es suicidé, Théophile. » La voix était douce et simplement interrogative. Elle prononça Théophile avec une sorte de proximité maternelle. Oui, c'était comme la voix de sa mère lorsqu'il était petit. « Vous voulez savoir ?» dit-il avec colère et sincérité. « Non, je me suis tué par bêtise, par vengeance. Je n'ai pensé qu'à moi, voilà la vérité. « Es-tu prêt maintenant à venir ?» chuchota la voix dans son oreille. Toujours cette impression de calme et de paix, impression que depuis sa rupture sentimentale, il n'avait jamais plus éprouvée. C'était la même impression de tendre innocence que lors des moments avec Marguerite. « Pour aller où ? Je ne sais même pas pourquoi je suis encore vivant. » « Viens et vois, » dit la voix. Il sentait auprès de lui une présence paisible. Il ne voyait toujours rien, mais devinait en elle une sorte de guide chaleureux. Or, au-dessus de lui, il vit soudain s'ouvrir comme une porte d'où sortait une lumière brillante. « C'est quoi ça ?»« C'est le passage pour l'autre monde. » Il se sentit attiré comme un papillon l'est par la lumière. « Non, je ne suis pas prêt, » dit-il. « Je ne veux pas rencontrer cette lumière, je suis un salaud. » La voix reprit. « N'aie pas peur. » Elle était devenue masculine. Et un bras fort et rassurant, comme celle de son père, quand il l'entraînait à se dépasser lors de ses premiers plongeons dans la piscine, le prit par les épaules, et le fit pénétrer dans le couloir de lumière. 60 ans plus tard. 60 ans plus tard, le 6 janvier 2067, Marguerite mourut à son tour. Elle franchit la porte, entra dans la lumière. Elle avait vécu une longue vie et avait finalement connu le bonheur. Elle avait fini par se pardonner ce drame. Et à partir de l'âge de 25 ans, elle avait accepté de vivre de nouveau quand son fiancé, celui qui devint son compagnon et le père de ses enfants, lui avait dit excédé « La gabine de jadis finira-t-elle tout de même par disparaître ?» À l'heure de sa mort, elle franchit elle aussi la porte. Avec le Christ, elle revit sa vie, ses péchés, ses bonnes actions. Lucifer l'accusa, mais elle voulut l'amour. Or, dans tous ces événements, elle ne rencontra jamais Théophile. Étonnée, elle demanda à son ange gardien « Où est-il » L'ange lui répondit « Il t'attend. Il n'a pas voulu entrer dans la lumière avant de te demander pardon, de visu, tu verras. Il est devenu un jeune homme bien. » L'ange la prit par la main et la conduisit dans la vallée des purgatoires. Théophile se tenait debout, souriant, et de son âme sortait de la lumière. C'est là qu'ils se demandèrent pardon. Elle dit « Je t'ai abandonné, j'étais une enfant, je ne cherchais que du plaisir sentimental. » Il dit « Je t'ai écrasé par un amour trop exclusif, j'étais un enfant et mon suicide, ça a été l'acte le plus stupide. Je croyais te prouver mon amour. » Elle dit « Et tu m'attends depuis 60 ans ?» Il répondit « Tous nos amours revivent au ciel, purifiés de toutes leurs bêtises, et tu verras, tu accueilleras bientôt ton mari, puis tes enfants. » Elle demanda « Qu'as-tu fait après ta mort ?» J'étais absolument désespéré, je voulais le néant, mais j'étais vivant. Si j'étais entré directement dans la lumière, face à Lucifer, j'aurais fait une bêtise, je me serais damné. Mais nos amis du ciel le savaient, alors ils m'ont d'abord laissé méditer sur terre, dans le Shéol, comme une âme errante. Juste ce qu'il fallait pour que je devienne le misérable que j'étais. Cette souffrance a été la pire qu'on puisse imaginer. Je ne la souhaite à personne. J'étais entre deux mondes, j'avais perdu ton amour et je n'avais pas encore le leur. Comme dit le psaume 88, « Pour les morts, fais-tu des merveilles. Les ombres qui errent dans le Shéol se lèvent-elles pour te louer? Parle-t-on de ton amour dans la tombe, de ta vérité au lieu de perdition? Connaît-on dans la ténèbre tes merveilles et ta justice au pays de l'oubli? Et moi, je crie vers toi, Yahvé. Le matin, ma prière te prévient. » Et Théophile continua. « Puis mon ange est venu me chercher. Il m'a confronté tout de suite au Messie, Jésus, mon Dieu. Il a passé un temps immense avec moi. Il m'a rassuré. Il m'a présenté des suicidés qui habitaient dans la vision de Dieu. Tous me montraient leur vie. Il y avait toutes sortes de suicides. L'un d'eux m'a frappé par son humour formidable. Il me disait « Tu te rends compte, j'ai été pardonné. Et pourtant, tu sais comment je me suis tué. En duel, oui, en duel contre un officier bretteur de Louis XIII, sous prétexte qu'il m'avait soi-disant légèrement bousculé dans un passage sans s'excuser. Je voulais juste crâner devant une bande de copains. J'avais 17 ans, j'étais un paltoquet vaniteux, une sorte de piaf sans ombre d'intelligence. Il m'a transpercé comme un poulet, et je suis arrivé là-haut tout nu et sans honneur. Fini mes amis, j'étais seul, et j'ai été pardonné par Dieu. » Théophile continua. Lucifer aussi a mis toutes ses forces. Quand il est apparu, il m'a montré les conséquences de mes actes. La vieillesse sans joie de ma mère. Les 10 années dont tu as eu besoin pour te remettre et revivre. Et il disait d'un ton définitif et avec une grande autorité. Ta faute est trop grande, elle ne saurait être pardonnée. Il m'invitait à la désespérance. Il s'était fait accompagner d'un certain nombre de ses adeptes, quelques suicidés de l'enfer. L'un d'eux m'a marqué, il disait « J'ai livré mon meilleur ami à ses ennemis pour quelques pièces d'argent. Ne crois pas au pardon. Reste digne. Tu es allé trop loin. Tu as détruit la fille que tu aimais. Moi, j'ai rendu l'argent, je me suis tué. Et quand on est venu me proposer le pardon, j'ai reproché à l'être qui venait son indignité. » Après un moment, Théophile continua son récit. J'étais en danger de damnation. J'allais suivre Lucifer dans un acte libre de désespérance quand j'ai regardé une dernière fois Jésus. Et il m'a dit « Moi aussi je suis mort à cause d'un grand amour. » Mais je lui répondais « Toi, tu ne t'es offert que par un vrai amour. Moi je suis mort à cause d'un vrai égoïsme aveugle. Jamais je ne pourrais me pardonner ces vies gâchées, ma mère Marguerite. » Alors il m'a dévoilé le futur. Ta propre âme, façonnée par la vie, nos retrouvailles un jour. Il m'a montré les effets pour l'éternité des souffrances de ma mère. Son allégresse lorsque, dans quelques années, à l'heure de sa mort, elle se retrouverait vivante, elle qui est athée, et qu'elle me retrouverait. Il a conclu par ces mots. Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs au repentir. Viens, tu es fait pour l'amour. Alors j'ai accepté son pardon. Mais j'en tenais une couche, tu sais. J'y ai mis une condition. J'ai voulu attendre l'arrivée de ma mère, puis ton arrivée, avant d'aller au ciel avec Dieu. Je voulais me punir. Jésus a accepté. Je me suis mis moi-même au purgatoire. Et j'ai attendu seul. Et j'attends depuis cette époque. Marguerite lui dit, c'est un beau cadeau de ton amour. C'est un acte droit. Non, j'en avais besoin. Il fallait que je médite jusqu'au bout ma misère. Ce jour-là, Théophile et Marguerite sont entrés dans la vision de l'être le plus merveilleux, le plus délicat qu'on puisse imaginer. Ils sont entrés pour l'éternité et Dieu a poussé la délicatesse jusqu'à leur rendre leur amour de jeunesse. Ils y sont entrés ensemble, ces deux-là. Lucifer, en colère, disait « Ce n'est tout de même pas croyable, c'est théologiquement absurde. Dieu décide que, après la mort, tout homme qui paraîtra en ayant refusé l'amour est damné, c'est un dogme. Alors, quand cela l'arrange, sous prétexte qu'un de ses petits morveux est prêt à me suivre, il les sauve dans le passage de la mort. Il transforme la mort en un passage, voire un séjour. Il l'étend comme un élastique. Ce Théophile y est resté 9 jours à y réfléchir. Sans cela, je l'avais, il m'aurait suivi. Le suicide est comme tous les actes humains. Il peut être parfois motivé par un grand amour, ou plus souvent par la faiblesse, par l'ignorance. Parfois, il peut être motivé par une vraie méchanceté. Et seul le Christ, dans son apparition, peut manifester la vérité dans cette complexité.